Un film vous manque et tout est dépeuplé. Entre ça et l'enquête que je vous ai préparée, on termine la semaine sur les chapeaux de roue.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le prochain film de Quentin Tarantino est annulé. Après un an de teasing et un tournage pourtant imminent, The Movie Critic n'existera pas. Et ce sont un paquet de cinéphiles qui pleurent de voir ce projet excitant annulé. Je vous explique tout. À côté de ça, Civil War d'Alex Garland fait parler de lui, et pas en bien cette fois, non plutôt à cause de l'intelligence artificielle. Première fois dans cette émission que je mène une enquête et que j'ai découvert des trucs assez peu rassurants sur l'évolution de cette technologie au service du cinéma. Je vous donne ce que j'ai appris et ça concerne les sous-titres. Dans la partie audio, trois morceaux pour un compositeur, aujourd'hui le prolifique français Alexandre Desplat, et dans la partie vidéo, les trailers sympas ou non qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et bien entendu, il y aura la question du public et un auditeur qui viendra nous parler d'une enquête policière sous fond horrifique. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, bah n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Voilà, j'arrive même plus à le dire tellement je le dis souvent. Abonnez-vous sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube en activant la cloche. D'ailleurs, dans la version audio, le vendredi, c'est la nouvelle rubrique qui est la rubrique sur les compositeurs. On écoute de la musique tous ensemble et visiblement ça vous plaît, je suis très content. Quelques problèmes d'élocution aujourd'hui, c'est compliqué. Le pire podcast cinéma, c'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredi à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Il est de ces réalisateurs dont tout le monde connaît le nom, qui peut se permettre de se lancer dans n'importe quel projet, parce que de toute manière, les gens iront voir le film s'il y a son nom marqué sur l'affiche. Mais il est aussi de ces réalisateurs avec des névroses qui s'est fixé une règle complètement débile pour sa filmographie, et qui du coup en subit le prix de l'anxiété. Oui, mesdames et messieurs, c'est assez rare pour le dire et pour faire une introduction d'un tout autre ordre. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de Quentin Tarantino. Ça fait maintenant 5 ans qu'on n'a pas eu de nouveau film du bonhomme, le dernier datant de 2019, à savoir Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood qui, de mon point de vue, est le meilleur film qu'il a jamais réalisé. Ouais, j'ai été un fan de longue date de Reservoir Dogs, mais il faut dire que Once Upon a Time in Hollywood, c'est quand même quelque chose, et je vais pas dire le nom en entier à chaque fois, parce que Once Upon a Time in Hollywood, c'est long, on va dire plutôt sa version abrégée, à savoir Watty. Watty by Night. Oh, la ref, elle est obscur. Et le truc, c'est que ce film, ça sentait déjà un petit peu la fin de carrière, ça sentait le film testament. Parce que Quentin Tarantino s'est fixé une règle qu'il a pas arrêté de proclamer pendant des années, à savoir que il ne réalisera que 10 longs métrages. Et Watty, c'était le 9e. D'ailleurs, il y a une rumeur récente complètement débile, je sais pas si vous l'avez vu passer. Il y a Luc Besson qui est en train de tourner actuellement un film Dracula avec Christophe Waltz. Oui, ça existe, laissez-moi tranquille. Et ben en interview, il a balancé que le coût des 10 films, c'était son idée à la base, que Besson il voulait faire ça et qu'il en a parlé à Tarantino en mode si je n'ai que 10 balles, je dois faire attention aux 3 dernières. Et que du coup, Tarantino a aimé l'idée et s'est dit "Ah oh, putain, mais je vais faire pareil." Sauf qu'au final, c'est quoi le résultat? Eh ben Luc Besson, il en est à 21 films et Tarantino, il sait pas quoi faire pour le 10e. Merci poteau, merci. Tout pour nous faire chier Luc Besson, c'est pas possible, c'est terrible. Parce qu'il y a un an, le Hollywood Reporter lâchait l'info, Tarantino bosse sur son dernier long métrage, à savoir un film intitulé The Movie Critic, ou en français, Le Critique de Cinéma. Ce qui changeait d'ailleurs du projet précédemment annoncé, parce qu'à la base, Tarantino il avait dit qu'il voulait faire un film Star Trek bien vénère, bien rated R, mais au final, le deal a pas réussi à se monter avec Paramount. Je pense qu'il s'est retrouvé dans une situation où il demandait une trop grande liberté pour un film qui s'inscrivait dans une licence. Il s'est donc rabattu sur un film bien plus personnel, dans le Hollywood des années 70, et qui fait sens. Le type a grandi en citant les critiques de cinéma. Il a dit plusieurs fois notamment que la critique de cinéma Pauline Kael, c'était celle qui avait un peu fait son école de cinéma. Et concernant le film en lui-même, d'après les infos du Hollywood Reporter, le film devait donc suivre un critique de film cynique qui écrivait pour un magazine interdit aux moins de 18 ans et qui devait voir revenir à l'écran le personnage joué par Brad Pitt dans Watty. Vous savez, il jouait le cascadeur Cliff Booth, et ben normalement, il devait réapparaître dans une sorte d'univers interconnecté. Entre Tarantino qui voulait faire un Star Trek qui se met aux univers interconnectés, ouais, ça devient un délire toute cette affaire. Et ça se battait niveau studio pour savoir qui allait choper le bébé. Personne n'avait signé encore, mais la lutte faisait rage. Il y avait même une rumeur persistante comme quoi Tom Cruise aurait adoré jouer dans le film. Et perso, cette annonce-là, elle me faisait rêver parce que le Tom Cruise corps d'action des dernières années, pourquoi pas, il est marrant, mais moi j'aimerais qu'on me rende le Tom Cruise d'il y a 25 ans, le Tom Cruise acteur, le Tom Cruise de Magnolia, de Eyes Wide Shut, voilà. Ce Tom Cruise-là, savoir qu'il serait peut-être dans le film, ça faisait augmenter ma hype. Le projet en plus était quasiment parti en tournage parce que, alors, devait y avoir un premier jour de shoot au mois d'août qui permettait d'obtenir un crédit d'impôt de la Californie pour pouvoir financer le film, et ensuite tout le long métrage allait être tourné début 2025. Mais vous le remarquez, depuis le début, je parle au passé. Je dis ça aurait dû se produire. Parce qu'en effet, après un an de teasing et d'annonces autour d'un projet ultra personnel, nous avons appris il y a quelques jours que Tarantino renonçait à faire The Movie Critic. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? On n'en sait rien. Vraiment, c'est-à-dire que même le Hollywood Reporter, ils ont zéro réponse définitive. Ils sont même, eux, un peu tombés de leur chaise en apprenant la nouvelle. Ce qu'on sait, c'est que la production avait pris un peu de retard parce que, il y a quelques mois, Tarantino a décidé de réécrire entièrement le scénario. Il y avait des rumeurs à la base sur le projet qu'on devait suivre normalement comme protagoniste principal une femme. Puis finalement, c'était un critique. Ça devait être même Brad Pitt qui devait être le personnage principal. C'était un petit peu compliqué la manière dont ça se profilait et personne ne comprenait trop vraiment de quoi allait parler le film. Mais au final, on le saura jamais parce que, ça se fera tout simplement pas. Ce qui me permet de vous donner une information supplémentaire, mais aussi une petite interprétation personnelle. L'information, c'est que c'est pas la première fois que Tarantino fout à la poubelle un film qu'il a déjà entièrement écrit. C'était le cas avec un film précédent, son western sous la neige, qui était The Hateful Eight. Oui, mais Victor, ce film, il est sorti au final. Oui, mais pendant longtemps, c'était très incertain. En gros, je vous explique ce qui s'est passé. Tarantino venait d'écrire la première version du scénario et il l'a envoyé à quelques comédiens qu'il aimerait bien voir dans le film, notamment Tim Rose, notamment Bruce Dern. Et en fait, ces comédiens en question ont fait lire le scénario à leurs agents et il y a un agent, on sait pas lequel, qui a commencé à faire lire le scénario à tout Hollywood. Si bien que le scénario en question a leaké sur internet. Tarantino est devenu complètement fou, il a dit bah si c'est comme ça je vous emmerde, je fais pas le film, voilà, je vais le sortir en bouquin quitte à ce que ce soit écrit, mais c'est bon, c'est mort, je ne sortirai pas ce long métrage. Mais avec le temps, des gens ont commencé à lui dire mais frérot, c'est complètement con, il est super ton film, fais-le. Et ce qui lui a donné à nouveau confiance dans le projet, c'est qu'il a organisé une lecture publique du scénario avec déjà pas mal de gens qui seront dans le casting final, hein. C'est-à-dire sur place, t'avais Tim Ross, t'avais Kurt Russell, t'avais Bruce Dern, t'avais Michael Madsen, t'avais Samuel L. Jackson, t'avais Walton Goggins, mais aussi le français Denis Ménochet, voilà, qui avait déjà joué chez Tarantino dans Inglourious Basterds. Et cette lecture s'est extrêmement bien passée, il a vu les gens jouer son scénar, et il a dit « Ah non mais arrêtez, c'est trop con, il faut le faire ce film ». Et du coup il l'a fait, ça a donné The Hateful Eight, et The Hateful Eight, et c'était vachement bien. Donc voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est mort pour l'instant, mais qui sait ce qui peut se produire? C'est déjà arrivé dans le passé, on peut avoir une surprise dans l'année qui vient de Tarantino qui se dit au final « Ouais, non, quand même, il faudrait que je le fasse ce film ». Mais, et c'est mon deuxième point, c'est un peu mon interprétation personnelle, cette règle qui s'est imposée de 10 films maximum lui a clairement tiré une balle dans le pied. Oui, il y a quelque chose de beau à vouloir dire « Ok, je ne ferai que 10 films, j'ai envie que ma carrière soit rare, j'ai envie de m'arrêter avant de devenir un réalisateur qu'on regarde bizarrement parce qu'il fait de la merde. Voilà, je veux avoir une trajectoire claire, nette et précise et décider le moment où j'en ai fini. » C'est joli de le penser comme ça, mais le problème, c'est que ça te fout une pression de dingue. Parce que là, il est dans la situation où il a plus qu'une seule balle dans le chargeur. Quelle est la bonne à tirer? Et puis même, au-delà de ça, comment savoir si après avoir fait ce dixième, il n'y aura pas une sorte de sentiment de frustration? C'est pas la même chose que de créer avec un sentiment de liberté totale, ou même la situation de sentiment d'urgence se retrouve dans le fait de te dire « Ok, je veux créer un maximum de trucs avant de mourir, ou en tout cas, de plus être en état ni d'avoir l'énergie. » Dans cette situation-là, tu veux faire un max de trucs, t'expérimentes, tu tentes des choses. Je veux dire, regardez Martin Scorsese qui cette année a cassé la gueule de tout le monde avec son Killers of the Flower Moon. Là, il a encore deux projets sur le feu, à savoir un biopic sur Sinatra et un film sur Jésus. Il va tous les enterrer, papy. Et j'aborde même pas la question de Clint Eastwood qui vient de réaliser un film à l'âge de 93 ans. C'est un autre sujet. Et puis le problème, c'est que Tarantino, il a passé tellement de temps à expliquer à tout le monde qu'il en ferait que 10, que si jamais il dit au final j'en fais un 11e, les gens vont se moquer. Il y a une partie des gens qui vont le prendre vraiment pour un taillazou. Du coup, The Movie Critic, le projet qui paraît évident et extrêmement personnel, il est peut-être trop évident. Il est peut-être trop personnel. Et du coup, il se pose la question... qu'est-ce que je fais? C'est pas juste faire un nouveau film. C'est qu'est-ce que je fais comme dernier film avant de me barrer? Et puis tu rajoutes par-dessus ça que juste avant, il a fait un coup de maître comme Once Upon a Time in Hollywood. Ça va déjà être difficile de faire un film qui est aussi bien que Once Upon a Time in Hollywood. Comment est-ce que tu peux réussir à trouver le projet qui te fera pas partir sur une note décevante? Ah non, mais le mec s'est mis dans la merde tout seul comme un grand. Il a eu besoin de personne. Hein. Il promet des films, et au final, à cause de ses promesses, y a rien qui sort. Enfin, je dis de l'aide de personne. Visiblement, d'après les rumeurs, ce serait l'aide de Besson. Est-ce qu'on peut décider tous ensemble, collectivement, que si Tarantino a annulé son nouveau film, c'est à cause de Luc Besson? J'ai besoin d'un coupable et il me semble tout désigné. Je pense qu'il est parfait pour ce rôle. Qui sait, en tout cas, ce que l'avenir nous réservera. Espérons au moins un jour pouvoir lire cette histoire de critique de cinéma. Si vous avez regardé la précédente émission, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le dernier film d'Alex Garland, Civil War. Il est en salle en ce moment même d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites à suivre cette émission? Allez voir ce film, c'est quand même plus important. Et aujourd'hui, on a mené une petite enquête. Oui, le pire podcast cinéma mène des enquêtes. Eh, vous croyez quoi? Ça travaille aussi ici, ça travaille. Et ça concerne, tenez-vous bien, les sous-titres français de Civil War. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par une personne travaillant dans le monde du cinéma qui venait de voir dans les salles françaises Civil War en VO sous-titré français et qui trouvait que les sous-titres avaient quelque chose d'un peu étrange. D'après ce qu'il me dit, parfois les tournures de phrases étaient bizarres, ça ressemblait un peu à la traduction littérale facile, ce qui l'a poussé à rester jusqu'à la fin de la séance pour voir au générique qui s'était occupé de la traduction. Et arrivé à la fin du générique, il n'y avait pas de nom. D'habitude, à la fin d'un film, t'as toujours le nom de la personne qui s'est occupée de la traduction. Je veux dire, c'est comme pour un livre, t'as le nom du traducteur. Quand tu vas voir un film doublé, ben à la fin, t'as un carton de doublage avec qui s'est occupé de la direction artistique, qui sont les comédiens et tout. Voilà, c'est des mentions légales. On met qui a bossé sur le film. Mais là, pas de nom. Enfin, si. Il y avait un nom. Celui d'une boîte. Transperfect Media France. Transperfect Media, c'est à la base une société américaine qui s'est spécialisée dans les services de traduction, mais qui avec les années a racheté d'autres boîtes et a essayé de diversifier son activité, que ce soit sur différents territoires, mais aussi sur différents corps de métier. En 2022, par exemple, ils ont racheté la boîte française Eventy, que vous connaissez peut-être, c'est une boîte qui est spécialisée dans la post-production, dans la restauration de films. N'hésitez pas à vous intéresser à ce qu'ils font, il en sort des choses très très belles. Mais si on en reste juste du côté de Transperfect, quand on s'intéresse à sa branche française, sur le site, on peut voir que leur secteur d'activité va du doublage à la production vidéo, en passant par la transcription et enfin le sous-titrage. Et sur leur page concernant le sous-titrage, la première chose qui s'affiche, c'est « sous-titrage via intelligence artificielle ». Je vais vous lire littéralement ce qui est marqué sur leur site internet. L'IA de Transperfect a été adaptée aux besoins de sous-titrage dans les domaines des réseaux sociaux, d'internet, de la diffusion et du numérique, offrant ainsi une solution de sous-titrage à plusieurs niveaux qui peut être ajustée en fonction du budget, du calendrier et des exigences de qualité. Nos linguistes spécialistes dans leur domaine et nos réviseurs utilisent notre plateforme innovante MediaNext pour raccourcir les délais de commercialisation de plus de 30%. C'est quoi MediaNext? Après quelques recherches, on découvre que MediaNext, c'est un logiciel développé en interne chez Transperfect Media qui permet de traduire des sous-titres via l'aide de l'intelligence artificielle. Il y a même une petite vidéo de présentation associée où on peut voir le logiciel à l'œuvre. Cet outil fait toute la traduction en automatique. Et si jamais il y a une tournure de phrase qui va pas, on peut quand même intervenir pour changer tel ou tel mot. Mais 90% du travail a déjà été pré-mâché. Et c'est ça que vend Transperfect. Du travail pré-mâché. Et cet outil, ça fait des années qu'il le développe avec cette promesse. En faisant quelques recherches supplémentaires, on découvre que ça fait depuis 2018 que Transperfect mène des conférences, majoritairement aux États-Unis, ayant pour but de promouvoir son IA et de montrer à quel point elle est trop forte comparée par exemple à Google Traduction. La traduction automatisée par machine avec une aide réduite à son strict minimum, c'est ça que vend Transperfect Media. Et du coup, ça m'amène quelques questions. Petit 1, est-ce seulement une machine qui a développé les sous-titres? Petit 2, est-ce qu'un humain est intervenu à un moment pour les corriger? Petit 3, si un humain est intervenu à un moment, pourquoi n'est-il pas crédité à la fin du film? Ce qui semble être parfaitement normal quand on travaille sur un long métrage. Ayant toutes ces questions en poche, je me suis permis quelques stories sur mon compte Instagram. Vous devriez vraiment suivre mon compte Instagram. Et j'ai récolté un témoignage plutôt intéressant d'une personne travaillant dans l'industrie et qui m'a déclaré ceci. Il bosse dans le milieu du jeu vidéo aussi. Et la boîte est parfois créditée quand bien même ce sont des humains qui ont fait la trad. Pour le sous-titrage, il faut savoir qu'ils payent déjà très mal les sous-titres humains. Alors j'ose même pas imaginer le tarif pour de la MPTE, post-édition de traduction par machine, qu'ils utilisent pour faire encore baisser les coûts. On peut imaginer qu'on est à 1 à 2 euros la minute, là où habituellement un tarif correct en France pour de la trad humaine se situe autour des 8 euros la minute. On est donc dans la pure évidence. Utiliser de l'IA pour sous-titrer les films, ça permet de réduire les coûts, mais aussi de moins payer les gens dont c'est le corps de métier à la base. Je veux dire, c'est une machine qui fait le travail, alors pourquoi est-ce qu'on mettrait en avant les petites mains à l'œuvre pour corriger ses erreurs? Pourquoi même est-ce qu'on devrait les payer dignement? Et là, une autre personne du monde du doublage sous-titrage m'a contacté à son tour et m'a déclaré ce qui suit. C'est un peu long, mais c'est quand même très important. Transperfect Media, ils sont connus dans le monde de la traduction. Ce sont des géants qui rachètent tout. Il est possible que la trad ait été faite en interne ou que la signature de l'auteur ait sauté. Je fais des recherches de mon côté, mais effectivement, il parlait déjà de faire de l'audio description par IA, ce serait pas étonnant. On sait que le résultat peut pas être aussi quali qu'avec un traducteur humain, mais pour les boîtes et la majorité des spectateurs, c'est assez bien. On est énormément à flipper parce que sans un éveil des consciences sur la qualité du travail de traduction, c'est toute une branche, tout un savoir-faire et un art qui risque de disparaître. Et pas grand monde n'en a quelque chose à faire. Vivement que la Commission européenne statue sur l'IA, on n'en peut plus. Il m'a ensuite contacté pour me dire qu'il avait eu des informations comme quoi ce serait bien un humain qui a fait les sous-titres du film et que sa signature aurait simplement sauté à la fin du générique. Mais il y a tout de même de quoi rester méfiant. Car tout ça est beaucoup trop opaque pour savoir à quel niveau l'humain a été impliqué dans le processus. Et vu le développement des outils en interne chez Transperfect, impossible de savoir la manière dont ont été réalisés ces sous-titres. Parce qu'encore une fois, aucun humain n'a été crédité pour ce travail. Et sans crédit, l'humain n'existe pas. Juste une boîte qui se vantait il y a quelques années en conférence d'avoir une intelligence qui est plus performante que celle de Google Traduction. Sachez que de mon côté, j'attends encore des réponses de la part du distributeur français du film Metropolitan. Sûrement que eux sauront démêler le vrai du faux. Je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram. Mais ça pose quand même deux problèmes cette histoire. Un généralisé pas voulu et un autre bien plus personnel. Le généralisé, c'est que le film Civil War en lui-même est actuellement globalement dans la sauce parce que du côté des États-Unis, le distributeur du film là-bas, A24, a décidé de balancer un peu partout sur les réseaux des nouvelles affiches du film. Petit problème, ces affiches ne reprennent aucune image du film et ont été entièrement générées par intelligence artificielle. Ce qui fait donc pas mal gueuler. Tu vois un film, ce film a des images et des images que tu n'utilises pas, au profit de choses générées par un ordinateur qui n'ont rien à voir ni avec le contenu du film en question, ni avec son esthétique globale. Donc voilà, on cite Civil War pour ses problèmes d'intelligence artificielle, je pense que c'est pas le premier ni le dernier film qu'on va citer autour de cette question-là. Mais surtout, et ça, c'est mon souci plus perso, c'est que je considère que le métier de traducteur, c'est un métier qui est super important. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de lire Les Contrées du Rêve de Lovecraft et l'édition française que je possède a été traduite par David Camus. David Camus qui est, entre autres, le petit-fils d'Albert Camus, mais qui est un auteur et traducteur extrêmement reconnu quand il s'agit de travailler autour de cet auteur. Et en introduction du livre, il y a une vingtaine de pages pour expliquer le pourquoi et le comment de cette traduction. Il y parle des références originelles impossibles à retranscrire, des choix d'adaptation ou non de certains termes techniques, le respect d'un auteur et de son écriture pour mieux la reproduire dans une autre langue. Traduire une œuvre, en général, et là dans ce cas précis du Lovecraft, c'est un travail absolument titanesque. Ça demande sans cesse de la remise en contexte, de réfléchir sur pourquoi ça a été dit ainsi, comment ça a été dit, qu'est-ce que veut dire le sens de la phrase, pour éviter de faire une traduction qui serait un peu trop littérale ou qui irait au contraire complètement à côté de la plaque. Traduire une œuvre, c'est pas juste traduire au mot près, c'est essayer au contraire de convertir en quelques mots dans une autre langue un sens profond, une sorte d'âme que tu ne peux pas reproduire de manière trop robotique, trop littérale. Une machine, quoi. Et voir que dans le cas des sous-titrages français, on vend comme un progrès la déshumanisation de la traduction française au profit d'une plus grande rentabilité, ce qui donne au final des phrases un peu étranges, un peu toc, qui risquent de faire sortir le spectateur du film, je trouve ça inquiétant. Le monde va vite, il y a toujours plus de trucs qui sortent, il faut bosser rapidement, mais les écrits restent et les gens perdent leur emploi. Sans même réfléchir à toute cette dimension-là, posons-nous juste la question d'un point de vue public. Si ces écrits desservent le public à la fin, est-ce que la technologie nous a permis de faire un bond en avant ou en arrière ? Un compositeur, trois morceaux. Dans la partie podcast du vendredi, nous revenons chaque semaine sur un compositeur marquant à travers trois de ses œuvres sélectionnées par mes soins. Pas forcément les plus mémorables, mais certainement celles qui me touchent le plus et permettent surtout de parler de cinéma. Alors installez-vous confortablement, mettez un casque sur vos oreilles et laissez la musique vous emporter. Un compositeur, trois morceaux, aujourd'hui, Alexandre Desplat. Complexe que de résumer l'œuvre de Desplat à seulement trois morceaux, lui compositeur sur plus de 150 films français ou internationaux. D'autant plus compliqué que de ne pas tomber dans les évidences. Harry Potter, ses collaborations régulières avec Wes Anderson, ou même sa partition pour le Godzilla de 2014. Enfin, exercice complexe, quand moi-même j'ai mis du temps à saisir les subtilités de ses créations, les trouvant régulièrement sans saveur, voire même un peu pédantes, sans personnalité. Eh bien, j'avais tort. Et pour comprendre cela, retournons dans le passé. Avant de conquérir l'Amérique, Alexandre Desplat fait ses premières armes chez son ami Jacques Audiard, dont il deviendra le collaborateur principal. On pourrait citer dès 94 « Regarde les hommes tombés » ou aller jusqu'en 2018 aux Frères Sisters, mais intéressons-nous plutôt à « Un homme très discret » sorti en 96. Dans ce film, se déroulant après l'hiver 44, Mathieu Kassovitz interprète un menteur, désireux de passer pour un héros de guerre qui n'y a pourtant jamais participé. Il s'invente un mythe, et de la même manière, Desplat réinvente déjà son style, grâce à l'aide de sa compagne, Dominique Lemonnier, violoniste lui faisant découvrir les possibilités des instruments à cordes. En résulte alors un nouveau territoire à conquérir, des violoncelles présents à l'image dès son ouverture, au service d'une bande originale sublime dont est issu le morceau « La vérité ou la mort ». Je le citais en introduction, est difficile de faire l'impasse quand on sait que Desplat a collaboré 6 fois avec lui. Nous devons de parler de Wes Anderson. Et quitte à choisir un film de manière tout à fait arbitraire, arrêtons-nous sur le Grand Budapest Hotel. Dans ce long métrage sorti en 2014, Monsieur Gustave, concierge d'hôtel, apprend le métier à un jeune groom, ce qui devient le prétexte à d'innombrables aventures. Troisième film en commun, la bande originale sera récompensée du premier Oscar de Desplat, mérité pour son paquet de morceaux mémorables. Tout comme le nom du jeune groom, Monsieur Mustapha. Nous en arrivons déjà au dernier morceau et cédons à la facilité. Le film que vous m'avez le plus cité sur les réseaux pour la grande qualité de sa partition sonore. Et j'ai envie de dire, à raison, tant elle est sublime. La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Dans ce chef-d'œuvre récompensé de l'Oscar du meilleur film, Desplat tente de lier sa musique à l'ambiance aquatique omniprésente. Reproduire avec ses instruments, ses flûtes, ses accordéons, l'écume des vagues, la chaleur d'un amour naissant, ou encore le sentiment d'un écho lointain lorsqu'une tête s'immerge sous les eaux. Probablement sa plus grande réussite, de celle qui met tout le monde d'accord, et qui trouve toute sa puissance dans le thème d'Elisa. Trois morceaux c'est peu, mais trois morceaux c'est déjà beaucoup. C'était trois morceaux d'Alexandre Desplat.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une, vous pouvez la poser. Et si j'ai une réponse à apporter, eh ben, elle passera dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre sur mon compte Instagram qui est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Ben Clark Nova qui nous dit « Bonjour, ton avis slash analyse sur la séance de Love Lies Bleeding au BIF et les réactions du festival. » Analyse, y a-t-il vraiment à analyser quelque chose dans tout ça ? J'avais pas prévu d'aborder ce sujet, alors que toute la semaine dans la partie questions du public, on m'a posé des questions autour de ça, on me demandait de commenter ce qui s'est passé dans ce festival de cinéma. Et je voulais pas en parler pour deux raisons. La première, c'est que j'ai mes problèmes personnels avec le BIF. Et j'avais pas envie que ma réponse puisse passer pour une vendetta ou quelque chose de ce style-là. Et deuxièmement, eh ben, on manquait d'infos. C'était vraiment genre la parole de l'un contre la parole de l'autre, ce qui a jamais apporté quelque chose de très probant à commenter. Et puis, il y a une petite musique qui a commencé à se dessiner autour des différents communiqués du festival. Et bon, allez, je vais le dire, j'en ai plus rien à foutre. J'ai été contacté par des bénévoles du festival qui, alors, évidemment, je ne vais pas donner leur nom ici, mais ils ont commencé à m'envoyer des messages, soit certains pour se donner le beau rôle, soit d'autres pour m'expliquer qu'ils avaient démissionné suite à cette affaire. Et j'ai plus ou moins compris dans ce qu'on m'écrivait que, ah ouais, certaines personnes qui avaient pas très envie que je parle du sujet, parce que ça doit puer sacrément, cette affaire. Et puis, je suis content d'avoir attendu parce que c'est parti en vrille, parce que des médias ont commencé à en parler. Des médias internationaux ont commencé à en parler. C'est remonté jusqu'au casting même du film qui a dû commenter l'histoire. C'est chaud. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce doux festival de genre ? Il y a presque une semaine, était diffusé au festival Love Lies Bleeding, nouveau film de la réalisatrice Rose Glass. Le film est d'ailleurs déjà sorti au Québec, je l'ai vu, il est vachement bien, vous devriez avoir hâte de le voir, il sort en France en juin prochain. Mais au moment de sa diffusion au festival, on savait pas que le film allait sortir en Europe. Et du coup, des gens se sont rués à la projection pour pouvoir voir le film, et vu le sujet du film, se sont rués à la projection des personnes lesbiennes. Parce que tout le film, justement, ça raconte l'histoire d'un couple lesbien, et ça va partir quelque peu en vrille avec une famille de meurtriers, vous verrez en voyant le film. Sauf que le BIF, c'est pas un festival comme les autres. Moi, je suis vraiment du camp de « devant un film, tu te tais ». Mais c'est clairement pas ce qui se passe dans ce festival. Pendant le film, ça crie, ça commente, ça fait des blagues. C'est un peu le concours de qui fera la meilleure vanne pour faire marrer un maximum de gens dans le public. Si t'ajoutes à ça le fait que c'est un festival où il y a énormément de bières qui circulent, on est en Belgique, il y a de la bière, vous vous doutez un petit peu de à quoi ressemblent les séances passées 21h. Et ça a pas manqué devant Love Lies Bleeding parce que d'après les propos rapportés, on commençait à fuser à haute voix dans la salle des insultes contre les lesbiennes, des burks quand il y a eu les premiers passages sexuels à l'intérieur, si bien qu'environ 80 personnes ont quitté la salle, se sont fait insulter pendant qu'elles le faisaient, et l'une d'entre elles a giflé un gars qui l'avait insulté. Ça a manifesté devant la salle pour demander l'arrêt de la projection, ça a envoyé la police pour calmer les personnes sorties, et d'après les témoignages, on aurait dit aux personnes sorties qu'elles défendaient mal leur cause. Et bref, un joli bad buzz que le BIF a dû commenter avec un premier communiqué que je vous cite. Ils ont dit que ces événements étaient inadmissibles, ne reflétaient en aucun cas l'esprit libertaire du festival, et ont condamné les propos discriminants et la violence morale ou physique pour exprimer un désaccord. Et si je dis premier communiqué, c'est parce qu'il y en a eu un deuxième, parce que oui, le bad buzz a continué. Et dans ce deuxième communiqué, clairement, il pourrit le deuxième communiqué. Vraiment, ils se sont clairement dédouanés en disant « c'est dur aussi pour nos équipes » et ont promis entamer un processus de réflexion. Et ils étaient obligés de faire ce deuxième communiqué parce que l'affaire, elle est remontée vraiment très très loin. Elle est remontée jusqu'à Variety aux US. Tu m'étonnes, Variety adore les dramas. Et Variety qui allait interroger la comédienne principale du film, Cathy O'Brien, en disant « est-ce que ça t'étonne que le film ait suscité des réactions homophobes lors d'une projection ?» Et elle a eu, je trouve, des mots très justes, puisqu'elle a déclaré ce qui suit. « Oui, je suis pas étonné. C'est le monde qui est comme ça. Aller au cinéma ne devrait pas être un endroit où tu peux te faire attaquer. J'ai cru comprendre que c'est un festival qui permet de crier pendant le film, et ça participe forcément à créer un environnement de la sorte. » Et oui, elle a parfaitement raison. C'est-à-dire que ce qui est décrit par le BIF comme de l'ambiance humour bon enfant où on crie dans la salle n'est qu'une façade pour cacher depuis extrêmement longtemps des propos déplacés prononcés par des gens dans le public régulièrement. Et je le sais moi-même, j'ai assisté à des projections là-bas et j'ai dû me barrer de l'une d'entre elles tellement je supportais pas ce qui se passait dans la salle. C'était il y a 2 ans, c'était pour le film Dual avec Karen Gillian, film très sympathique que j'ai vu après du coup. Et au bout de 10 minutes de film, t'as une scène où l'héroïne se touche et ça balançait les pires dingueries sexistes en gueulant dans la salle. Ce qui m'a vraiment fait sortir, c'est l'ambiance beauve générale, notamment une blague, à un moment il y a une nana en sang et ça gueulait pour faire rire toute la salle. Qu'est-ce qui se passe? Elle a ses règles? Comment est-ce que tu veux t'immerger dans une séance? Et j'incrimine personne en particulier. Je sais qu'il y a un paquet de gens là-bas qui tentent de faire le meilleur boulot possible. Mais essayer aujourd'hui de mettre en lumière ces problèmes comme quelque chose de tout récent, c'est un mensonge. parce que ça fait longtemps que ça existe. T'as toujours eu au Bif des gros beaufs bourrés à la bière qui gueulent des trucs horribles dans la salle. Il y en a qui viennent même que pour ça, pour justement retrouver cette ambiance de franche camaraderie entre couilles où on hurle des horreurs. Ça fait partie pour eux de l'ADN du festival. Et forcément, moi, ça me met déjà dans un désaccord de principe sur le fait que, comme je vous disais, je suis de la team, devant un film, tu fermes ta gueule. Mais non, c'est pas l'ADN, encore une fois, du Bif. Le vrai problème dans les communiqués successifs, c'est que tu sens qu'ils sont obligés de faire du damage control, mais qu'ils veulent pas s'aliéner non plus le public d'habitué qui vient pour cette ambiance-là. C'est vraiment des communiqués du style « Oui, ok, il y a eu des propos nazes, mais ils ont mal réagi aussi, les gens qui sont sortis de la salle. Attends, quand même, ils ont répondu aux gens qui les insultaient, ils pouvaient pas juste sortir et se taire. » Alors que vous savez ce qu'aurait réglé l'affaire en deux secondes ? Faire un communiqué pour dire « Ouais, l'enfer, pardon, on est désolé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser une nouvelle projection pour les gens qui ont pas pu voir le film la première fois, et comme ça, vous pourrez le regarder peinard. » Tu faisais ça, t'avais l'excuse, la solution, tout le monde était content, c'était la fin de l'histoire, le festival continuait tranquille. Et là, non, ça va laisser une trace indélébile, parce que quand dans le communiqué, ils disent « on réfléchit », vous réfléchissez, mais rien ne changera, tout le monde le sait. Parce que, pensons pragmatique, tu ne peux pas modifier ce qui fait pour la majorité du public régulier l'ADN du festival au profit d'un groupe qui ne sont pas des réguliers, qui venaient juste une seule fois et qui ont découvert justement ce qui s'y passait. Tout le problème actuellement, c'est essayer de calmer un public qui ne reviendra pas et conserver en parallèle un public de réguliers qui ne veut pas perdre justement ce truc-là. Ils sont dans une impasse. C'est juste con que l'impasse ce soit « on doit laisser les débiles gueuler pendant nos séances parce que c'est eux qui font les plus gros chiffres ». C'est con, c'est une histoire de communication vraiment juste naze. Et c'est encore plus dommage quand tu sais qu'il y avait des films vraiment chouettes dans la programmation de cette année.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film, non, c'est vous. En effet, les auditeurs, les auditrices peuvent envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Et moi, après, j'écoute tous vos audios, j'en sélectionne un, il passe dans l'émission, l'adresse mail est en description, vous connaissez le principe. Blabli blou bli bla bli bla blou. Ça fait une heure et quart que j'enregistre, je me suis repris trop de fois. Elle est terrible cette émission, elle est terrible. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est un auditeur qui prend la parole, qui va nous parler d'un détective et d'histoire horrifique. Cher auditeur, dont j'ai même pas retenu le prénom, je manque à tous mes principes aujourd'hui, c'est terrible. Bref, cher auditeur, c'est à toi.
Bonjour Victor et bonjour les cinéphiles. Imaginez un film qui vous transporte dans un univers où le mystère et l'horreur se mêlent à une enquête de détective privé. Déjà, ce film est une victime, un film presque caché par Disney, qui n'a pas su comment le positionner suite au rachat de la 20th Century Fox, dont ce fut la dernière production. Ce manque de promotion a malheureusement privé beaucoup de spectateurs d'une pépite de cinéma. Pourtant, ceux qui ont eu la chance de le découvrir parlent déjà d'un futur film culte. C'est typiquement le film que Disney a voulu glisser sous le tapis et l'a parachuté sur Disney+, il y a environ 2 ans, le plus discrètement possible. C'est un film d'auteur, relecture du mythe du Boogeyman. The Empty Man de David Prior n'est pas un film d'horreur ordinaire. C'est une expérience cinématographique qui vous plonge dans une ambiance sombre et envoûtante, rappelant le classique Angel Heart d'Alan Parker. L'histoire suit un ancien flic qui se lance dans une enquête personnelle pour retrouver une jeune fille disparue. Ce qu'il découvre, c'est un monde où les légendes urbaines prennent vie, où les sectes cachent des secrets terrifiants et où les événements surnaturels défient toute logique. Le film débute par un prologue déroutant de plus de 20 minutes qui se situe au Bhoutan, qui est une petite œuvre d'art en soi, établissant le ton avec une maîtrise technique qui annonce la couleur du voyage cinématographique sur lequel vous vous êtes prêté à embarquer. La réalisation de David Prior, dont c'est le premier film, et qui a travaillé aux côtés de grands noms tels que Peter Weir et David Fincher, brille par sa capacité à créer une atmosphère à la fois belle et inquiétante, où chaque scène est imprégnée d'une tension palpable. C'est poisseux, c'est glauque, on sent que tout le film est gangréné par un mal tapis dans l'ombre. L'histoire autour de cet Empty Man va se révéler tout au long des 2h16 du film dans une ambiance à la Lovecraft. L'innommable et l'indescriptible s'immiscent petit à petit. Dans The Empty Man, il y a une séquence en particulier que je voulais évoquer pour son atmosphère malsaine, saisissante et hypnotisante. Celle autour du feu de camp. Sans révéler trop de détails, cette scène est un petit chef-d'œuvre de tension palpable. La mise en scène, l'éclairage, la bande sonore, le concept de cette séquence, tout fonctionne à merveille pour vous laisser scotcher à votre fauteuil. Cette scène est un exemple parfait de la façon dont The Empty Man utilise l'ambiance et le ton pour créer une terreur qui s'infiltre par la rétine et reste avec vous longtemps après que le film soit terminé. Ce film est une invitation à réfléchir sur la nature de la croyance, sur ce qui se cache dans les recoins sombres de notre conscience collective. C'est une exploration de la peur, non pas à travers des jumpscares prévisibles, mais par une montée en puissance d'une terreur psychologique qui s'insinue lentement sous votre peau. Alors si vous êtes prêt à vous laisser embarquer par une histoire qui défie les conventions, par une réalisation qui respecte votre intelligence et par une atmosphère qui vous enveloppe longtemps après le générique, The Empty Man est le film qu'il vous faut. Ne le laissez pas disparaître dans l'oubli. Donnez-lui la chance de vous hanter comme il le mérite.
C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous et que cette semaine se termine de la meilleure des manières. Moi, la semaine se termine à peine parce que ce week-end, je suis en tournage justement pour un gros truc dont je vous parlais, où il y a plein de gens que je vais croiser qui vont faire de la figuration. Ça va être rigolo. Ça va être sympa. J'espère pas trop rentrer rincé pour l'émission de lundi. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, voilà. On revient lundi normalement. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore.
Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.